Et la question que nous vous posions hier était la suivante. Israël doit-il, oui ou non, selon vous, expulser les familles des terroristes? Alors Lise, question un peu clivante s'il en est. Qu'en ont pensé nos auditeurs? J'ai ma petite idée sur la question.
Ben, je crois pas que ça soit tellement clivant. Hein. On est à 80% de oui sur Facebook, 91% de oui sur Insta et 100% de oui sur Twitter.
C'était de l'ironie. C'était de l'ironie, ma chère Lise.
Donc, on va demander son avis à notre invité qui, lui, est plus spécialiste que nous. Raphaël Jérusalemi, bonjour.
Bonjour.
Ancien officier des renseignements militaires. On avait évidemment posé cette question du jour à Raphaël Jérusalemi après la loi votée à la Knesset pour proposer au vote de la Knesset pour cette expulsion des familles des terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ancien officier de Tzahal?
Pour moi, ce qui est important dans les mesures qu'on prend à l'égard des terroristes, c'est la dissuasion. C'est-à-dire, quelle que soit la punition qui soit infligée, il faut qu'elle soit dissuasive. J'ai mes doutes, par exemple, sur la destruction des domiciles des terroristes et de leurs familles après un attentat. Par contre, les patrons du Shin Bet en Israël ont toujours été en faveur de cette solution de destruction de domiciles comme exemple. Alors, il y a évidemment un plaisir certain à voir les coupables punis. Leur famille, pour moi, c'est évidemment uniquement si elles sont complices, car il y a des familles qui encouragent ou qui élèvent leurs enfants dans la haine du juif et dans l'apologie de l'attentat, du martyr, du terrorisme, mais d'autres familles non, et qui sont parfois même complètement pris de court et surpris lorsqu'il y a ce qu'on appelle un loup solitaire qui, de but en blanc, passe à l'acte. Sur le plan de la prévention, la dissuasion, je pense que cette mesure est inutile, elle ne va pas décourager quelqu'un qui a décidé de passer à l'acte. C'est en général quelqu'un qui est radicalisé, qui est fanatique, qui ne réfléchit pas de façon nécessairement rationnelle. Donc, à mon avis, elle n'est pas dissuasive. On a envisagé, si déjà, aussi le rétablissement de la peine de mort qui existe en Israël, pour les crimes contre l'humanité. Un terroriste est un criminel contre l'humanité, il s'attaque à des civils innocents, et donc on pourrait aussi parler de l'appel de mort. Là encore, les chefs du Shin Bet, les uns après les autres, donc unanimité, ne pensent pas que ça soit dissuasif d'appliquer cette peine de mort. Donc voilà, il y a ici, en fait, l'importance sur le plan professionnel par rapport au terrorisme, c'est la prévention. Lorsque quelqu'un est fanatisé, lorsque quelqu'un décide de commettre un attentat, il est déjà trop tard. Il faut prévenir, il faut avoir le renseignement à l'avance, d'où, par exemple, une mesure qui est beaucoup plus efficace, la détention administrative, c'est-à-dire la possibilité pour les services de sécurité de détenir et d'incarcérer un personnage suspect de vouloir tenter un attentat, et de vérifier qui l'a aidé, qui sont ses complices, de remonter la filière. Voilà, donc en gros, en plus l'expulsion, à mon avis, si déjà, pourquoi juste la famille? Et si l'épicier du coin a été au courant et qu'il lui a fourni du matériel pour faire l'attentat, il faut aussi expulser l'épicier du coin. Et je terminerai en disant, pour beaucoup de Palestiniens, c'est une récompense et pas une punition, car beaucoup de jeunes Palestiniens ne rêvent que de d'émigrer, d'aller vivre à l'étranger, et ils n'en ont pas les moyens, où il n'y a pas toujours des pays qui vont les accueillir. Or là, en fait, dans l'expulsion, légalement, on doit leur trouver un pays d'accueil et un endroit où atterrir, et donc c'est presque, pour certains, une récompense plutôt qu'une punition.
Alors justement, j'allais vous demander, Raphaël Jérusalemi, c'est vrai que la loi, elle prévoit que ça soit seulement des proches, père, mère, conjoint, frère, sœur, etc., qui auraient été au courant donc du projet terroriste et qui auraient donc participé en ne l'empêchant pas d'advenir. Ces expulsions, puisque sans doute elles vont avoir lieu si la loi est votée, comme ça semble être la tendance, où on va les envoyer? On parle de Gaza ou d'ailleurs?
Oui, alors si on les envoie à Gaza, on n'aura pas fait grand-chose. Il y a des pays qui accueillent. Nous avons Par exemple, nous n'avons pas gardé, je prends un exemple très simple, les pilotes syriens de l'armée de l'air syrienne qui ont quitté, qui ont déserté la Syrie, on a eu quelques-uns, on ne les a pas gardés d'Israël, sauf un, mais celui-là, c'est parce qu'il s'est marié avec une jeune femme du kibboutz où il était caché, ils sont tombés amoureux et il s'est marié avec elle. Dans l'ensemble, on ne les a pas expulsés, on leur a trouvé des pays d'accueil. J'en cite un parce que c'est pas tellement secret, c'est l'Allemagne. Donc des pays d'accueil, parce que on voulait pas pour eux-mêmes d'ailleurs, en tant que pilote syrien qui avait défecté, qu'ils restent chez les missionnistes, si vous voulez. Et donc il y aura ici un problème juridique certain sur le plan du droit. C'est pas sûr que sur le plan juridique, ce mode d'expulsion fonctionne. Par contre, je pense qu'on trouvera assez facilement des pays d'accueil. Il s'agit en fin de compte d'une décision symbolique et politique, et d'une sorte de transfert, de mini-transfert des Palestiniens, parce que ce dont rêvent ceux qui ont inventé cette loi, c'est en fait que tous les Palestiniens quittent la Palestine, ce qui serait évidemment une solution, parce qu'on ne peut pas avoir deux peuples, deux États, s'il y a un peuple qui n'est plus là. Et donc, effectivement, l'idée d'un transfert, que les Palestiniens s'en aillent. Moi, évidemment, comme la majorité de vos auditeurs, je suis évidemment pour une répression très, très sévère de tout ce qui a trait au terrorisme, une répression tout aussi sévère des enseignants et des imams qui prêchent la haine et qui prêchent la violence, qui est faite d'ailleurs même en Europe. Aujourd'hui, les imams intégristes sont plus ou moins muselés et certains sont expulsés. On a vu ça en Angleterre, on a vu ça même en France. Donc expulser effectivement ceux qui, même s'ils ne font pas d'attentats, qui sont à la source des attentats, ceux qui prêchent la haine, ceux qui prêchent le chahid, d'être chahid, d'être martyr, ils sont tout aussi coupables que le gars qui se lève un matin avec un couteau pour aller poignarder des personnes dans la rue. Et donc, ça fait beaucoup de gens expulsés. Est-ce la solution, comme je le dis? Est-ce dissuasif? Je n'en suis pas certain.
Alors, je voudrais qu'on passe à la frontière nord, Raphaël Jérusalem, puisque c'est l'essentiel de la guerre en ce moment. Les négociations continuent. Amos Hochstein arrive en Israël et au Liban demain. Les Américains redoublent d'efforts avant les élections de la semaine prochaine pour obtenir un cessez-le-feu. Ça ne va pas arriver sans doute d'ici à la semaine prochaine, mais un haut fonctionnaire israélien disait d'ici un mois, ça paraît très réaliste. Qu'en pensez-vous, Raphaël Jérusalem?
Ça va surtout dépendre du gouvernement libanais, mais aussi du Hezbollah malgré tout, car bien qu'il affaibli, le Hezbollah peut continuer à n'en faire qu'à sa tête, et bien qu'affaibli, continuer à créer une situation sécuritaire dangereuse qui force les Israéliens à se défendre et à réagir. Ça va dépendre du gouvernement libanais qui, pour l'instant, n'accepte pas les revendications israéliennes, c'est-à-dire la principale étant qu'Israël ait le droit d'intervenir si jamais ce cessez-le-feu ne tient pas. C'est-à-dire, s'il y a infraction au cessez-le-feu par le Hezbollah, l'armée libanaise étant incapable militairement de s'en occuper, l'Israélien devrait avoir le droit de commettre des incursions pour réparer, diront, l'infraction. Évidemment, devant l'inefficacité aussi, on le rappelle, de la finule des forces des Nations Unies. C'est une des conditions que pour l'instant les Libanais, le gouvernement libanais n'accepte pas, et à mon avis, c'est une condition sine qua non pour un cessez-le-feu.
Ma dernière question à Raphaël Jérusalem, Amos Hochstein arrive. On voit bien que les Américains ont essayé d'avancer l'agenda pour ces négociations. Et on sent aussi qu'il y a eu un changement dans leur tête. Avant, c'était de dire qu'il valait mieux négocier le cessez-le-feu à Gaza et après, on pourrait le faire au nord. Et visiblement, avec toutes les dernières opérations d'Israël, maintenant, ils sont dans un état d'esprit où d'abord le Nord peut peut-être faire débloquer la situation à Gaza et notamment chez les otages.
Oui, Amos Hochstein, c'est un brave monsieur qui vient toujours avec de belles propositions utopiques qui ne marchent pas. ça n'a marché qu'une fois sur le plan de la frontière maritime, mais là, c'était parce que les Libanais recevaient un puits de gaz naturel qui pouvait potentiellement leur apporter des milliards de dollars. À part ça, il n'a jamais rien réussi depuis le temps qu'il vient faire des allers-retours au Liban. Et donc, effectivement, il y a des signes importants quand même qui donnent un lueur d'espoir. C'est d'une part, effectivement, que le Hezbollah lui-même dissocie maintenant sa stratégie de ce qui se passe à Gaza. Et ça, c'était un des principaux obstacles, puisqu'il y est tout à Gaza. Il fallait d'abord un cessez-le-feu à Gaza. Le Hezbollah, donc, lui-même vient d'annoncer qu'il pouvait négocier un cessez-le-feu séparé, même si les combats continuent à Gaza, ce qui paraît plutôt logique. Pourquoi associer les deux? Effectivement, ce sont deux théâtres d'opération différents. Les Libanais de même, donc on est maintenant plus dans la direction, et ce qui était voulu dès le départ, d'une négociation Jérusalem-Beyrouth, juste ces deux-là, indépendamment de ce qui se passe autour. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Comme vous l'avez dit, il est peu probable que le gouvernement américain actuel réussisse. Je rappelle qu'on fixe tout le temps la date des élections au 5 novembre. Je rappelle quand même que le gouvernement Biden sera en exercice de fonction jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc il a encore 2 mois après les élections pour continuer sa politique. C'est pas le 5 novembre que tout change, c'est le 31 décembre.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous, à très vite.
Bonne journée.